À la une de l'actualité, on s'envole vers Sydney dans ce journal avec le directeur général d'ATN qui précise les plans de la compagnie. On retournera à l'Elysée avec des commentaires de Gaston Flos et Oscar Temaru. Et puis de bonnes nouvelles aussi du côté du Portugal en fin d'édition. Journal de la rédaction présenté par Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Air Tahiti Nui à la une de ce journal. La compagnie du pays est à la croisée des chemins.
Et oui, des décisions importantes se préparent pour ATN. D'autres sont déjà prises. On vous a parlé de la fermeture de la ligne de Papeete Seattle à la fin du mois de janvier. Eh bien, le même conseil d'administration qui s'était tenu à mi-septembre a aussi acté le principe d'une ouverture de ligne, celle de Sydney. Une réouverture même puisque cette ligne avait été exploitée jusqu'en 2009. L'idée, c'est de capter les touristes australiens. Un marché porteur et jusqu'à présent largement dominé par Fidji, c'est aussi de faire de l'Australie une escale pour faire venir à Tahiti la clientèle asiatique, notamment celle du sud du continent. C'est la raison pour laquelle la direction d'Air Tahiti Nui a rencontré à Hong Kong la semaine dernière à la fois les gestionnaires d'aéroports de Sydney et des compagnies aériennes asiatiques. Seulement voilà, une route ça ne se décrète pas, comme le martèle Philippe Marie, ça se travaille et le directeur général vise plutôt une réouverture de cette ligne entre fin 2026 et le début 2027.
Ça va nous permettre de pouvoir la commercialiser déjà dans les systèmes. Ça va nous permettre de faire de la promotion avec les tour opérateurs, les agences de voyage et donc les aéroports concernés pour donner le plus de chances, avoir des résultats le plus rapidement à l'équilibre sur cette ouverture de route. Maintenant, toute ouverture de route sur les 2-3 premières années néanmoins demeure déficitaire. Le travail que nous devons opérer, c'est réduire au maximum ces déficits et la rendre à l'équilibre le plus rapidement possible.
Philippe Marie qui explique qu'un business plan plus précis doit être présenté au conseil d'administration d'ici le mois de décembre sur cette réouverture de Sydney. Il explique aussi que l'étude présentée par un cabinet privé il y a quelques semaines à ATN n'est pas la feuille de route de la compagnie. Radio 1 avait révélé les principales recommandations de cette étude signée Arthur Delittle et certaines étaient étonnantes. En plus de Sydney, les experts recommandaient la fermeture de Tokyo qui n'est pas au programme pour l'instant d'après le dirigeant. Ils avaient aussi proposé l'ouverture de lignes vers Honolulu et vers un deuxième hub aérien aux États-Unis, pourquoi pas San Francisco ou bien Dallas. Des hypothèses, de la matière à réflexion, rien de plus, précise aujourd'hui Philippe Marie, qui confirme tout de même qu'un travail de fond est en cours pour réétudier entièrement le réseau de la compagnie.
Le conseil d'administration, sur ces hypothèses, nous a demandé de les revoir sous l'angle d'Air Tahiti Nui et donc on doit présenter pour milieu 2026 nos analyses sur l'ouverture d'un deuxième point aux États-Unis propre à Air Tahiti Nui. Toutes les hypothèses seront regardées et nous présenterons celles qui nous semblent les plus pertinentes à travers les différentes hypothèses ou d'autres d'ailleurs, puisqu'on est en droit de ne pas se limiter à ce que a évoqué ou le cabinet ADL.
ADL, Arthur Delittle qui a donc ouvert des hypothèses et pas seulement sur la question des destinations. Comme l'avait dit Moëtei Brotherson au micro de Radio 1 il y a quelques jours, ces travaux n'ont du sens que si ils sont accompagnés d'une réflexion sur la flotte. Sur ce point, aucune option n'est pour l'instant privilégiée, même si ATN semble lorgner sur les nouveaux monocouloirs longue distance d'Airbus. La liste d'attente est longue pour les commandes, raison de plus pour prendre des décisions rapides sur le sujet. Philippe Marie qui assure côté finance que la réduction du déficit est en cours, peut-être pas aussi rapidement qu'espéré, pas de nouvelles subvention du pays en vue cette année après les 3,2 milliards accordés l'année dernière, mais il faudra bien se retourner vers l'actionnaire à un moment donné s'il y a des gros investissements à faire. Toute l'interview du directeur général est à retrouver sur radio1.pf.
À 7h04, Charlie, dans ce journal de la rédaction côté politique, on parle d'une proposition de loi sur l'emploi.
Cette proposition, elle est signée Tematei Le Gaïc et elle part d'un constat. Malgré la bonne santé économique de la Polynésie, le taux d'emploi ne progresse pas ou très peu. Un problème de crainte sur l'avenir et de charges patronales d'après Tematei Le Gaïc, qui va donc présenter ce vendredi en commission de l'économie un texte réinstaurant l'IFED, l'incitation fiscale pour l'emploi durable, qui avait été instaurée en 2006 par Pierre Frébeau et réanimée entre 2017 et 2021 par le gouvernement Fritsch. L'idée, elle est simple, une entreprise qui crée un emploi stable bénéficie d'un dégrèvement de 1,5 million de francs d'impôts sur les sociétés ou des transactions répartis sur 3 ans, une mesure qui a fait ses preuves d'après Tematei Le Gaïc.
Si on fait le bilan de ce dispositif sur les 7 années entre 2018 et 2024, c'est près de 3700 emplois créés pour 1,8 milliard d'exonération fiscale. Annuellement, ça représente 500 emplois pour 250 millions d'exonération fiscale. Là, l'idée, c'est surtout qu'il y ait une flexibilité qui soit donnée aux entreprises pour embaucher à partir du mi-temps 80 heures mensuelles, mais qu'on ramène les gens vers l'emploi.
Voilà, l'ex-député représentante à Vinité Mathieu Le Gaïc, qui est aussi candidat à la mairie de Papeete et qui estime que le pays, malgré des pertes de recettes fiscales, sera gagnant sur le long terme puisque les embauches aideront à équilibrer les comptes sociaux. Du côté du patronat, on applaudit une proposition business friendly.
Ouais, politique toujours avec le dîner républicain de l'Élysée qui fait réagir, Charlie.
Oui, d'abord du côté du Tao et Tato, ce nouveau parti tout en rose, voilà, lancé voilà un an par Pascal Haïti et Gaston Floss, le vieux Lyon reproche à Moëté Brotherson d'avoir profité de cette invitation pour demander auprès du président de la République un chemin vers l'indépendance encadré par l'ONU. L'ancien chef de file autonomiste constate que les discours du Tavini sont très divers sur ce sujet entre les partisans d'une indépendance immédiate et ceux qui préfèrent un chemin plus préparé vers la pleine souveraineté. Moëté Brotherson fait théoriquement partie de cette deuxième catégorie, mais Gaston Floss lui demande de clarifier sa position. Défendrez-vous l'indépendance telle que décidée par Oscar Temaru, oui ou non? Pas d'autre issue à la question.
Et Oscar Temaru, justement, a pris aussi la parole hier.
Oui, au moment où les autres élus de Tarahoy étaient réunis en séance plénière, le président du Tavini a tenu une conférence de presse avec plusieurs cadres du parti. Une conférence dans laquelle on a aussi parlé de ce dîner à l'Élysée, mais pour dénoncer les propositions faites par Emmanuel Macron de réformer le statut des Outre-mer, dont celui de la Polynésie. Une réforme à l'intérieur de la République, bien sûr, excluant donc un dialogue de décolonisation sous l'égide de l'ONU. On écoute Richard Touayava, qui, en plus d'être directeur de cabinet de Tony Géros à l'Assemblée, est responsable des questions juridiques au sein du parti indépendantiste.
C'est une forme de déni, un déni décolonisation. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a essayé de diluer cette question, qu'on a éludé ce sujet-là à travers une possible réforme institutionnelle au sein de la République. Voilà. Et donc, voilà le cadre que l'Élysée nous propose sur un sujet aussi important. Et après l'échec cuisant que l'on a constaté sur la question de Kanaky, après les accords de Bougival.
Des discussions qui interviennent donc à moins d'une semaine de la réunion annuelle de la 4e commission de l'ONU sur la décolonisation. 23 pétitionnaires sont attendus à New York du côté de la Polynésie, dont quelques autonomistes, mais surtout des représentants du Tavini et d'associations religieuses ou antinucléaires qui lui sont proches. Le camp Bleu Ciel promet des discours renouvelés autour de cette notion de dialogue constructif qui avait été évoquée, rappelez-vous, lors de la dernière réunion du C24 au Timor-Oriental, autour aussi de la question des transferts de l'État et celle de l'ICE qui sera donc évoqué pour la première fois au micro des Nations Unies. Le message est toujours le même sur le fond. L'État doit se plier aux résolutions prises par l'ONU depuis 2013 et lancer le dialogue sur la décolonisation. S'il s'y refuse, c'est peut-être que ce mot est trop chargé historiquement et qu'il fait peur. C'est en tout cas ce qu'on pense Richard Touayava.
Soyons clairs, quel est le mot qu'il faut utiliser alors pour qu'on commence à dialoguer? Pas bilatéralement à l'Élysée, dans le cadre d'une énième réforme institutionnelle, mais à l'ONU, dans le cadre des règles internationales en matière de droits de l'homme et de droit à l'autodétermination. Est-ce qu'on doit utiliser un autre terme? C'est quand même pas au peuple qui s'est retrouvé en sous-colonisation d'avoir à offrir un terme pour lequel la puissance administrante va devoir s'accommoder.
Et la 4e commission de l'ONU se tiendra donc mardi prochain. On fera bien sûr écho aux prises de parole et aux débats sur Radio 1 et Thierry FM.
Et on parlera d'AIS aussi à l'ONU, mais on en parle également ici au Fénois.
Avec la DG2E qui a suspendu hier l'agrément de la Fédération citoyenne de polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Un agrément qui servait aux interventions au milieu scolaire. Alors, ce que lui reproche la Fédération, la DG2E à la Fédération, c'est d'avoir raté deux rendez-vous pour cadrer la teneur de ces interventions, mais aussi d'avoir tenu des propos outranciers devant les élèves et sur les réseaux sociaux. La DG2E invite les responsables de la fédération, Charles Renvoyer et Cathy Godot notamment, à honorer de leur présence un autre rendez-vous pour rétablir cet agrément. Les deux militants, eux, invoquent un manque de temps et en appellent au ministre.
Ouais, côté justice, des peines confirmées en cours d'appel.
D'abord pour le docteur Jean-Paul Théron, qui avait été condamné pour violence volontaire sur un clerc d'huissier et un outrage sur un gendarme commis en 2021. Le parquet demandait 10 mois de prison en cours d'appel hier. Ce sera 6 avec sursis, comme en première instance. L'autre confirmation de peine, c'est celle de ce chauffard qui roulait vite, très vite, et avec 1,7 g d'alcool par litre de sang en février, aux abords du jardin botanique de Papéhari, où il s'était déporté sur l'autre voie et était entré en collision frontale avec une voiture. À l'intérieur, 4 personnes, dont 2 sont décédées, la conductrice de 46 ans et sa mère de 78 ans. En première instance, cet homme de 26 ans avait été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Le parquet demandait davantage, mais les juges d'appel ont là aussi confirmé la peine qui avait été prononcée, donc en première instance.
Vous écoutez le journal de la rédaction, il est 7h10 et on va ouvrir notre page sport avec une belle affiche et cette grande finale du championnat d'Océanie des U19 qui aura lieu demain.
Oui, un championnat qui, vous le savez, se déroule à Tahiti depuis une dizaine de jours et dans lequel les Hine Tauréas sont passées tout près de la qualification pour le tableau final. Elles ont dû laisser leur place aux Calédoniennes après un match nul et un classement qui s'est joué au goal average. Et bien les Calédoniennes ont poursuivi leur parcours, ça s'est plutôt bien passé, 2-0 contre Fidji. Les Cagous sont en finale ce samedi et elles sont déjà qualifiées pour le mondial U20 qui aura lieu en Pologne l'année prochaine. Avant ça, donc, une finale, et ce qui sera pas facile face aux Calédoniennes, les Néo-Zélandaises qui, comme souvent, ont fait un sans faute. 7-0 contre Tahiti, 11-0 contre le Vanuatu, 8-0 contre les Cook et 4-0 quelques jours plus tôt contre la Nouvelle-Calédonie qui va donc essayer de prendre sa revanche et pourquoi pas obliger les Kiwis à concéder leur premier but en 5 matchs. Ce sera donc samedi 15h au stade de Paéa.
Ah bah, fêtez-toi nos Calédoniens. Et puis on peut pas finir sans parler surf, Charlie.
Et du surf et des Challenger Series d'Eri Serra au Portugal avec cette très bonne nouvelle tombée un petit peu plus tôt dans la matinée. Kaolivast a battu l'Australien Oscar Berry, 5e du classement mondial. C'était en 8e de finale de cette compétition. Direction les quarts, donc, où il croisera un jeune basque de 21 ans qu'on ne connaît pas encore, Adur Amatrian, je crois que je le prononce bien. Toujours en lice aussi, Tia Zebrowski, hein, qui a été impressionnante depuis le début de la compétition, vous en avez parlé. Elle n'a fait qu'une bouchée d'une japonaise en 8e de finale, se prépare pour les quarts face à une américaine, Kira Pinkerton. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 7h30, comme d'habitude, pour la revue de presse.
Merci beaucoup Charlie, à tout.